Conversation urbaine et architecturale, Myriam Schwartz, architecte et urbaniste.
Radio-imo.fr.
Une émission présentée par Cardam, l'engagement d'un groupe innovant, un savoir-faire qui allie conseil, architecture et aménagement.
Chers auditeurs, bonjour. Bonjour, je reçois aujourd'hui Bernard Valero de l'agence Valero Gadon et Associés. Bonjour Bernard.
Bonjour Myriam, merci de me recevoir.
Alors, on s'est vu il y a, je sais pas, quelques mois, quelques années peut-être, pour travailler, pour discuter ensemble de votre actualité. J'ai vu passer pas mal de choses. Je sais que vous êtes à la fois sur beaucoup de bâtiments publics et des logements, que vous tricotez sur un certain nombre de mètres carrés de nos banlieues. Divers projets avec divers usages. Vous pouvez nous en parler un petit peu ?
Myriam, effectivement, bonjour de me recevoir. On se voit quand même assez souvent. Mais c'est vrai qu'on essaye avec mes associés, avec Frédéric, mon associé historique, et l'agence, que je remercie, de participer à plusieurs concours quand on a la chance d'être retenu. Et effectivement, on travaille beaucoup dans l'approche banlieue de Paris, sur des équipements publics divers et variés, que ça va de l'école au collège, en passant par le lycée. Là, ce matin, je vais sur le chantier d'une prison à Fleury-Mérogis, qui est un bâtiment fait par Gillet, qui est un bâtiment magnifique. Donc, comme j'ai dit souvent, on est un peu comme des artistes, c'est-à-dire qu'on prend l'habit à chaque fois d'un acteur différent. Aujourd'hui, je suis en prison, demain, je suis sur un lycée, je suis proviseur, après, je suis directeur de collège. Bon, c'est ça qui est intéressant dans ce métier, c'est de participer et de pénétrer en fin de compte.
Alors, est-ce qu'il y a une différence importante dans la programmation et donc dans la création et dans les concepts entre le avant et le après, on va dire, il y a 4-5 ans, avec moins de contraintes? Une différence importante dans l'esprit des gens quand même, vu ce qu'on vient de vivre avec le confinement. Maintenant,
il y a des modifications.
Quelle est la différence ?
Il y a beaucoup de modifications qui sont apportées, et d'ailleurs ça nous permet à nous de montrer que dans le logement on peut apporter plus de qualité de vie. En tout cas on essaye, c'est toujours la même problématique.
La fameuse référence au concept du logement de demain avec non seulement la RE2020 mais évidemment les espaces extérieurs, etc.
C'est les espaces extérieurs, certes,
d'abord,
puisqu'on a vécu une pandémie très grave, donc ça a modifié le regard, mais pas que pour nous, ça a modifié aussi le regard des donneurs d'ordre qui se sont rendus compte qu'un balcon d'un mètre n'est pas supportable, qu'un minimum c'est 1,50 m. Mais au-delà de ça, nous ce qu'on essaie de mettre en place, c'est une espèce de réversibilité du logement, de se rendre compte qu'en fin de compte, cette pandémie doit nous permettre, et cette maladie qui est apparue, de modifier les logements à loisir. Enfin, on essaye, en tout cas en apportant une espèce de trame récurrente.
C'est compliqué de faire une pièce sèche à la place d'une place humide.
Je suis complètement d'accord, mais en tout cas, on essaye d'initier le fait que la réversibilité soit là.
Et qu'aujourd'hui... Parce que la famille est réversible.
La famille est réversible.
Quelque part, elle est modulable.
La famille est modulable, la famille évolue, elle peut perdre une pièce, elle peut essayer d'en avoir une de plus. Bon, il ne faut pas que ça reste des vœux pieux et des dessins un peu utopistes. On essaye de poser cette trame sur nos projet et on essaye de se dire qu'une cage d'escalier,
mais
par exemple,
peut évoluer. Mais du coup, ça coûte quand même plus cher. Hein. C'est-à-dire l'évolutivité du bâtiment coûte de fait plus cher.
Effectivement, quand on devra revenir pour rajouter ou supprimer une pièce, il y aura forcément des travaux à faire. Mais si le bâtiment est une carcasse figée, qui ne permet pas cette évolution avec des murs porteurs partout, on essaye de travailler poteau poutre, on essaye de travailler des choses qui vont nous permettre de modifier.
Mais ça induit de fait une créativité et surtout des problèmes techniques, phoniques et thermiques qui peuvent être extrêmement importants. Parce qu'aujourd'hui, la problématique de passer de bâtiments, on va dire, d'une pièce à des bâtiments un peu plus flexibles, c'est principalement les problèmes techniques.
Problèmes acoustiques essentiellement.
Bien
donc
sûr.
Tout ça, comme tu le dis, c'est des problèmes qui coûtent de l'argent. Mais bon, il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait de s'imposer d'avoir des logements traversants, par exemple, avec une ventilation naturelle. Des choses, on essaye de combattre le fait d'avoir des circulations palières qui nous coupent la possibilité d'avoir des logements traversants, est-ouest en général, avec une meilleure exposition. Donc terrasse, logements traversants, ventilation, tout ça a été amené en quelque sorte. Mais c'est pas des choses que nous avons découvert. C'est des choses qu'on a toujours essayé de porter.
Non, mais comment les maîtres d'ouvrage se sont, accaparés ce concept et ont choisi aujourd'hui de répondre oui à cette question et d'arrêter de dire ça coûte trop cher, c'est trop cher, c'est trop cher, on n'y va pas, on n'y va pas.
Je dirais
ils sont un peu obligés maintenant, mais bon.
Je dirais qu'ils continuent de dire que ça coûte trop cher, mais ils se rendent compte que de toute façon les choses ont évolué.
De toute façon, les clients le demandent.
Et puis les clients le demandent, et puis ils se rendent bien compte que les gens cherchent cette qualité de logement. Certes, quand on a un logement traversant, c'est pas la même chose.
Mais alors du coup, comment fait-on pour absorber ce différentiel d'argent, les prix qui augmentent en ce moment? moment d'une manière quand même extrêmement importante. Le foncier qui ne baisse pas. C'est quoi l'habitat de demain pour les franciliens, par exemple?
C'est un travail chez nous, à l'agence, de tous les instants, pied à pied, pour essayer de réduire les choses qui ne serviraient à rien. D'être
C'est quoi les choses qui servent à rien? C'est intéressant.
Souvent, on cherche à trouver des matériaux qui ne soient pas... Moi, je pense souvent que l'argent peut être mis là où la pérennité va être efficace. Donc, on essaie de trouver des choses sans enduit, des choses où on supprime des éléments qui, de toute façon, vont se dégrader à terme.
Parce que pour vous, l'enduit est quelque chose qui se dégrade, est un produit de façade qui se dégrade, mais l'enduit, c'est quelque part le moins cher, hein.
C'est aussi, surtout dans la mentalité des gens, le cache-misère. Là, on a livré un bâtiment... à Ivry, où les gens nous ont même prétexté que l'entreprise avait fait des économies en ne mettant pas l'enduit, alors qu'on a travaillé comme des forcenés pour livrer un bâtiment en béton brut qui est remarqué par tous. Après, on peut toujours prétexter qu'on n'aime pas le béton brut. Et moi, je disais à ces acquéreurs, ils sont 5 ou 6, qu'ils n'auraient jamais à revenir sur leur façade et que l'économie à terme, elle se voit pas tout de suite, mais on n'a jamais à revenir sur un bâtiment comme ça. Donc, c'est là où on cherche des sources d'économies. Alors, ça coûte un peu plus cher quand on réalise le bâtiment.
Oui, mais donc un peu plus cher au mètre carré vendu.
Mètre carré vendu, ça dépend aussi. Il y a certaines communes où les mètres carrés sont bloqués, donc le prix est celui-là. Mmh. C'est à nous de travailler avec le maître d'ouvrage pour passer des bâtiments comme ça.
D'accord, donc ça, c'est des façades en béton brut. Il y a pas mal de collectivités qui ne veulent pas façade en béton brut. L'enduit, évidemment, il n'y a pas la pérennité. La brique, c'est trop cher.
C'est toute la complexité de notre métier. C'est le bois qu'on voit maintenant fleurir partout et qui se dégrade. Donc le bois à l'intérieur, yes, pourquoi pas, c'est très bien. Moi, je trouve ça magnifique. Après, c'est de faire comprendre que ces effets de mode du bois en façade, c'est quoi demain? Alors, autant on peut avoir un regard négatif sur le béton, je suis d'accord. Maintenant, il y a des bétons décarbonés, des bétons plus clairs, il n'y a pas des bétons gris. Bon, enfin, on peut trouver plein de solutions. C'est à nous de faire ce travail de pédagogie, c'est à nous d'expliquer, d'être force de proposition, et on n'arrête pas. C'est pour ça que c'est un métier passionnant, parce qu'il y a à convaincre tout le temps.
Est-ce qu'on a le sentiment aujourd'hui, dans l'habitat principalement, puisqu'on est... on est en train d'expérimenter la RE2020, on est en train d'expérimenter le post-Covid, tout ça dans un système économique qui est absolument terrible. Où est la solution? Est-ce qu'il ne faudrait pas quelque part travailler dès le début avec la grille de prix? Parce qu'au fond, nous sommes toujours extrêmement absents de la grille de prix, de la grille de vente. On ne nous donne rien, on ne nous montre rien. Évidemment que la marge, on a un ressenti, un sentiment, et avec un peu d'expérience, on a les vrais chiffres. Comment fait-on pour essayer d'avoir ce travail, on va dire, de tricotage intellectuel entre les maîtres d'ouvrage et les maîtres d'œuvre pour trouver le juste prix?
On essaye, nous, de demander justement ces grilles de prix. On se bat pour savoir à quel prix sont chiffrées certaines prestations. On fait des comparatifs. Toutes ces choses qui n'étaient pas de notre ressort, en quelque sorte.
C'est-à-dire, vous avez un économiste dans l'agence travaille avec vous?
Non, pas forcément. On compare ce qui est comparable. On sort des bâtiments, donc on sait qu'à tel endroit ça a coûté tel prix. Pourquoi à tel endroit ça augmente? Bon, là, tu l'as dit tout à l'heure, les prix augmentent et explosent à cause de plein de problèmes qui sont autour de la construction. De toute façon, c'est l'éternel problème. Comment faire le meilleur et le plus beau pour l'autre avec des choses très réduites? Mais c'est ça que je trouve intéressant en architecture. C'est de pas faire des bâtiments capotés, de pas faire des bâtiments, comment dirais-je, où on cache la misère, et faire avec peu d'argent des choses très belles. Et c'est à ce moment-là que l'architecture se révèle. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est sa forme, c'est sa spatialité qui va donner la qualité au bâtiment, et pas forcément tout le décorum qu'on met au-dessus pour cacher des fois des façades un peu pauvres ou des choses comme ça. C'est beaucoup de travail, parce que faire...
Alors, est-ce que ce travail est payé à sa juste valeur,
hein? Je pense pas, mais ça, tout le monde le sait. De toute façon,
ça veut dire que être architecte dans la domesticité, dans l'habitat, c'est un peu un sacerdoce.
Je pense que c'est la chose la plus dure à faire. Ça demande énormément de travail, de toute façon, si on veut donner des logements de qualité, énormément de travail si on veut travailler la spatialité et la forme du bâtiment. Je pense à imagine à Necker, on a travaillé un bâtiment de 20 000 m² à 40 millions, à 2 000 euros du mètre carré en plein Paris, on est tout en plâtre à l'intérieur, on n'a pas de matériaux riches. On a cette façade en verre avec cette sérigraphie, mais c'est le seul luxe. Tout le reste, c'est faire beau avec peu. Et c'est ça notre job. C'est vraiment essayer de sortir le bâtiment le plus élégant.
Je partage absolument le point de vue. On est confronté maintenant à des bâtiments en rénovation. C'est-à-dire qu'on va être confronté à de plus en plus de réhabilitation, de rénovation. Exactement. Dans l'habitat et de moins en moins de neuf. Comment fait-on ?
Eh ben, ce qui est très intéressant, c'est
là, c'est plus compliqué, n'est-ce pas ?
C'est plus compliqué, mais en général, ces bâtiments, si on peut les rénover, si on peut travailler sur le construit, c'est qu'ils ont une trame de base, ils ont une qualité de base. Je pense à la prison de Fleury qu'on réhabilite, fait par Gillet. Ben, je travaille avec l'existant et c'est passionnant parce que c'est vraiment un bâtiment. Moi, j'appelle ça c'est comme Notre-Dame. C'est un chef-d'œuvre.
S'inscrire dans la matérialité.
Exactement. Et préserver cette matérialité, la détourner, préserver l'originalité du bâtiment, ne jamais venir en conflit avec le confrère ou l'ancien qui a fait ce bâtiment. Surtout que là, on est devant, pour moi, un chef-d'œuvre. Bon, les gens, il y a une fonction et il y a un bâtiment. C'est deux choses qu'il faut regarder. Mais à chaque fois, les bâtiments réhabilités apportent leur matrice et c'est là-dessus qu'on doit travailler. Il y a toujours une qualité de base. Sinon, on réhabilite pas des bâtiments.
En plus, il y a des qualités de matériaux, de fait.
Et des qualités de matériaux qui sont indéniables, qu'on n'a pas aujourd'hui. On rentre dans des bâtiments, on se dit, mais ils ont pu faire ça. Et oui, ils l'ont fait. Aujourd'hui, ça devient pratiquement impensable. Voilà.
Alors, là, on vient de parler de la prison de Fleury et le moment venu, on pourra regarder, j'espère, quelques images intéressantes sur votre site. L'habitat, c'est peut-être plus compliqué, n'est-ce pas ? Les bâtiments des années 60, 70...
C'est pas évident. Les bâtiments des années 60, 70, pour avoir habité dedans...
Je sais que vous les aimez.
D'abord, je les aime. J'avais présenté ça à l'Académie quand j'étais reçu à l'Académie, sur le patrimoine des années 60. Et d'ailleurs, tous les vieux confrères qui étaient là, je dis vieux, les anciens qui étaient là étaient venus me dire on parle rarement comme ça de nos bâtiments. Alors c'est des bâtiments décriés parce qu'ils ont été construits à la reconstruction. Il fallait aller vite, mais quand même, moi j'ai habité dedans. J'ai habité dans une tour avec une qualité phonique qui était pas terrible, thermique pas terrible, mais on était content. On avait un bâtiment traversant, on avait un logement traversant.
La lumière,
un grand balcon. Moi je dis tout le temps, j'ai une chambre encore chez mes parents qui fait 3 mètres de large avec un châssis vitré qui fait la totalité de la chambre. Et qui est orienté plein est. Donc, il y avait des qualités dans ces bâtiments. Donc, on retrouve ces choses-là. Et je pense qu'il faut les préserver et les conserver. Et d'abord, c'est des exemples aussi de construction.
Alors, l'avenir, c'est de toute façon la rénovation de l'habitat.
Exactement.
Nous y sommes, on est confrontés à cette identité nouvelle, cette obligation de réduire la facture énergétique. Et ben, à bientôt sur les antennes de Radio Immo et peut-être parler un peu plus de la rénovation de l'habitat.
Avec plaisir.
Merci, au revoir chers auditeurs.
Merci Myriam.
Conversation urbaine et architecturale, Myriam Schwartz, architecte et urbaniste.
Radio-immo.fr.
Une émission présentée par Cardam, l'engagement d'un groupe innovant, un savoir-faire qui allie